en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Jean-Robert Pitt, élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 2008, au fauteuil précédemment occupé par Pierre Georges, dans la section Histoire et Géographie, a donné devant ses confrères académiciens une communication sur le vin, le lundi 12 décembre 2011, intitulée « Le vin et la condition humaine ». Grâce à Canal Académie, entrez dans la salle des séances.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir pris le risque de m'offrir la parole aujourd'hui et de me permettre de développer devant notre compagnie un sujet qui pourrait apparaître quelque peu futile au regard du sérieux des propos qui sont habituellement tenus en ces murs. Pourtant, rien n'est plus sérieux que le vin, puisqu'il est en correspondance intime avec notre excitante condition humaine, comme je vais tenter de le montrer, mais ce dont vous êtes déjà, pour beaucoup d'entre vous, convaincus. À l'avance, j'en demande pardon à ceux d'entre vous qui seraient abstinents, comme le sont 40% de nos compatriotes, hélas, 30% ne buvant du vin que les jours de fête, et seulement 30% à tous les repas. Grâce à ces deux dernières catégories, nous demeurons quand même les premiers consommateurs de vin au monde, immédiatement suivis des États-Unis, puis de l'Allemagne, talonnés par l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Argentine et la Chine. Très vite, les États-Unis et la Chine seront les premiers consommateurs de la planète, du moins en volume global. La consommation par tête nous place, nous Français, en deuxième position derrière le Luxembourg, 48 litres par an contre 53. Je rappelle que nous buvions, nos ancêtres buvaient 150 litres au début du XXe siècle, plus de l'absinthe, etc. À titre de comparaison, chaque Américain boit en moyenne 9 litres de vin, chaque Japonais 2 litres par an. Il y a 35 ans, c'était 10 centilitres par an, donc très grand progrès. Et chaque Chinois boit aujourd'hui 1 litre de vin par an. Ça fait donc 1 milliard 300 millions de litres bu dans ce vaste pays. Pour compléter ce bref panorama économique, je rappellerai que les exportations de vin français et d'eau de vie de vin représentent 10 milliards d'euros, soit l'équivalent de 182 Airbus ou 405 rames de TGV. Ainsi répartis, 2,5 milliards pour le champagne, 1,7 milliard pour le cognac, 1,4 milliard pour le Bordeaux et 700 millions pour le Bourgogne. On le voit dans la période de crise que nous traversons, le vin est un produit sérieux. Il est à notre économie ce que le pétrole est à d'autres, avec une qualité supplémentaire, celle de porter l'empreinte de notre culture, pour ne pas dire de notre génie, celle de nous ressembler. Depuis la haute antiquité, en effet, le vin a tenu une place essentielle dans les civilisations du croissant fertile dont nous sommes les héritiers et où il est apparu à la fin du 7e millénaire. Des découvertes récentes ont permis de mettre au jour une cuverie datée de 6100 avant Jésus-Christ en Arménie, au pied du mont Ararat. De par ses effets euphorisants et doucement désinhibants, qui permettent de prendre du recul face au pesant quotidien, il est devenu une boisson de culture qui a tout naturellement pris sa place au cœur des religions du Proche-Orient et de la Méditerranée. Dieux grecs, Dionysos, et romains, Bacchus, signe de l'alliance avec Yahvé chez les Hébreux, il est devenu central dans le christianisme qui allie l'héritage biblique et celui de la Grèce au travers de l'Eucharistie. Je vous propose d'évoquer quelques-unes des éminentes vertus du vin, sans lequel l'humanité serait encore plus désespérante et désespérée qu'elle n'est aujourd'hui. D'abord, le vin est fondamentalement l'expression de la vie. Plante à feuilles caduques, dans une région du monde où les plantes à feuilles persistantes sont majoritaires, Vitis vinifera, c'est la plante qui nous donne le raisin et le vin, revêt un aspect extrêmement austère pendant l'hiver. Son débourrage et la pousse de son feuillage vert tendre au printemps sont spectaculaires. C'est pourquoi elle a très tôt été associée à la renaissance de la vie après la mort, thème majeur de la mythologie dionysiaque et de la théologie chrétienne. Dionysos, fils de Zeus et de la mortelle Sémélée, est né deux fois, et la seconde fois, de la cuisse de son père. Jésus est lui aussi fils de Dieu et d'une mortelle. Il est mort et ressuscité, en fusion avec son père. L'un comme l'autre, Dionysos comme le Christ, se glissent et renaissent en permanence au cours d'un rituel solennel dans le cratère de vin du symposium ou dans le calice de l'Eucharistie. Et il y a une autre raison à cela. Cette association du vin et de la vie, c'est la fermentation, phénomène qui fut longtemps considéré comme très mystérieux. Même lorsqu'on commence à entrevoir la réalité, grâce aux travaux d'Adamo Fabroni, qui défend en 1787 Seulement, l'idée que la fermentation du moût est provoquée par des organismes vivants, qu'il ne connaît pas très bien, il faut attendre en fait le siècle suivant, et Pasteur, dans les années 1857-1867, pour qu'il soit prouvé que ce sont des micro-organismes anaérobies, les levures, qui transforment le sucre en alcool. Jusque-là, la théorie de la génération spontanée était communément admise, y compris par la majorité des savants dans la première moitié du XIXe siècle. Évidemment, elle était erronée, mais fascinante. Pasteur a permis de la dépasser, mais il n'a pas désenchanté le vin, ô combien. Il a simplement nommé la vie qui le fait naître et qui demeure toujours aussi passionnante en raison de la part d'imprévisible qu'elle comporte, parce que même aujourd'hui, avec les techniques dont on dispose, on ne maîtrise jamais totalement la fermentation d'un vin et son élevage et son vieillissement. Voir, sentir, goûter le moût qui commence sa fermentation en s'échauffant, puis en bouillonnant au plus fort du processus, comprendre les bons effets de la seconde fermentation dite malolactique, constater l'évolution différente de deux bouteilles du même vin, ce que vous avez tous constaté bien entendu, à mesure qu'elles vieillissent, autant de motifs d'émerveillement, même si les forces qui les provoquent sont mieux comprises aujourd'hui. Le vin est bien l'une des expressions les plus vigoureuses et foisonnantes de la vie. Ce n'est pas par hasard qu'une feuille de vigne habille les parties vitales de notre père Adam dans de nombreuses représentations artistiques. Ensuite, je voudrais aborder la question des cinq sens, puisque le vin est un des rares moyens d'exercer en même temps nos cinq sens. À la différence de beaucoup d'expressions du talent artistique des hommes, je pense à la musique, à la peinture, à la danse, le vin est, lui, perceptible par les cinq sens. L'ouïe est stimulée par le son du vin qui coule de la bouteille dans le verre, du champagne qui pétille, de la bouche du sommelier ou du dégustateur qui grume, du bouchon qui saute. La vue est sollicitée de manière parfois somptueuse par la transparence, la brillance, la couleur profonde et toujours unique du vin. Mais les trois autres sens, l'odorat, le goût et le toucher, jugés beaucoup moins nobles depuis les philosophes de l'Antiquité, se trouvent réhabilités grâce au vin, puisque ce sont eux qui, en réalité, permettent d'en approcher l'infinie richesse. Les fragrances et les saveurs du vin se révèlent au contact des lèvres et du palais grâce à leur texture, mais aussi grâce à leur température, sans oublier la matière du récipient en métal, en verre ou en cristal, qui contribue à l'introduction du vin en l'homme, ou si vous me le permettez, de l'homme dans le vin. En effet, je crois qu'on entre dans un vin, surtout s'il est grand, comme dans une poésie ou comme on entre en religion. En la matière, seuls sont comparables au vin l'alimentation, je veux dire la bonne chair, C-H-E-R-E, et par ailleurs l'œuvre de chair, C-H-A-I-R, deux des besoins humains les plus vitaux et avec lesquels le vin s'harmonise si bien. Ces palettes de perceptions complexes et subtiles dépassent ou plutôt stimulent l'imagination. Le vocabulaire scientifique est précis, mais totalement dénué de puissance d'évocation, puisqu'il consiste à énumérer les centaines, voire les milliers, de molécules qui composent le vin, dont certaines sont à l'état de traces très difficiles à analyser et à déceler. Elles contribuent à lui donner sa personnalité issue de son terroir, ces molécules. Dès que l'on veut en parler, on est contraint de faire appel à tout un vocabulaire comparatif ou métaphorique, et sont convoqués alors des parfums de minéraux, de fleurs, de fruits, d'atmosphère. Quelques exemples, un sous-bois de feuillus un soir d'automne tiède pour un chambertin un peu assagi, les embruns marins iodés pour un muscadet, une garrigue chauffée au soleil pour un bandol, par exemple. Ou des comparaisons anthropomorphiques, par exemple, une jeune femme épanouie, ça se dit très couramment, un fougueux adolescent, un très beau vieillard. Et là, je cite le guide des meilleurs vins de France de dernière édition de la Revue du vin de France, une volupté callipige pour un vin. Ou pour un champagne, cette expression très qui mériterait une longue méditation, voici un champagne, c'est la maison Paul Roger, enfantin et sérieux. Merveilleux. Un amateur éclairé n'hésitera pas à frôler l'oxymore, comme en témoignent ces commentaires extraits de la même source et que je vous livre. Pour divers vins, une ferme rondeur, une minéralité mielée, un gras nerveux, un doux amer, un moelleux allègre, une puissance tout en dentelle, une soyeuse fraîcheur, et pour un vin, il faut bien que je cite un peu les Bordeaux, pour un Léoville-Barton, très belle expression, terriblement velouté. Quelle belle expression. Ou pour un pouilly d'agneau, un taffetas salin. magnifique. Et pour terminer, une voltige littéraire à propos du Pouilly Clos du Calvaire 2008 du même Daguenau, qui est un vin qui n'a été produit qu'une fois et en quantité très limitée, une seule barrique. Voici ce que dit le critique de la revue du vin de France. « Ce Pouilly Clos du Calvaire danse en bouche une ultime chorégraphie sur des pointes minérales et des entrechats vibrants de fruits. » C'est que le vin, comme l'espèce humaine, est riche de paradoxes. Et que l'harmonie apaisée, c'est vrai pour les humains comme pour les vins, l'harmonie apaisée est souvent très ennuyeuse. Elle marque pour l'un comme pour l'autre le commencement de la fin. La grandeur d'un vin réside dans sa complexité et sa finesse, très rarement dans une trop grande exubérance. Compte tenu du nombre élevé de paramètres physiques et humains qui concourent à sa personnalité, c'est l'impression de rester au seuil d'un monde qui le dépasse, qui émeut l'amateur. Et là, je cite Yankelevitch dans le « Je ne sais quoi et le presque rien », qui parle de ce brin de mystère excitant autant qu'effrayant. Et c'est cela ce qui est merveilleux dans le grand vin. C'est cela qui rend le vin si nécessaire à l'humanité, pour l'empêcher de sombrer dans le positivisme et dans l'orgueil, ce qui doit se ressembler un tout petit peu. C'est pourquoi comprendre le vin exige de faire appel à toutes les sciences, et à un journaliste un peu naïf qui demandait récemment à Edgar Morin s'il voyait un rapport entre le vin et la sociologie. Edgar Morin a répondu « Le vin est un phénomène humain total qui ne s'épuise pas dans une seule discipline ». Il a donc refusé de répondre à cette question à laquelle notre président pourrait évidemment répondre avec beaucoup de talent. Le vin est aussi une source majeure de joie de vivre. Une de ses vertus touche à ses propriétés euphorisantes, bien connues, anxiolytiques, désinhibitrices, et bien entendu lorsqu'il est consommé avec modération. Au-delà de la modération qui varie d'un individu à l'autre, ses vertus s'évaporent. Les addictologues et les alcoologues, je pense à d'éminents médecins comme Michel Reynaud ou Philippe Battel, ont bien étudié le phénomène. Le vin agit sur, je parle sous le contrôle de nos confrères de l'Académie de médecine, le vin agit sur la dopamine, et sur les endomorphines, neurotransmetteurs qui sont parfois appelés molécules du plaisir. Le vin agit encore plus vite et efficacement lorsqu'il est chargé de gaz carbonique, ce qui est le cas du champagne. En 1821, le docteur Rock, qui ne savait pas expliquer le phénomène parce qu'il ne connaissait pas ces neurotransmetteurs sur la dopamine et les endomorphines, écrit un magnifique texte à propos des vins de champagne, qu'ils rompent la monotonie et quelquefois l'ennui des repas qui se prolongent. Leur couleur est ambrée. Leur éclat, leur mousse pétillante, leur parfum, tout cela excite les sens, donne une sorte d'hilarité qui se communique rapidement comme l'étincelle électrique. À ce mot magique de champagne, les convives engourdis, blasés par la bonne chère, se réveillent. Cette liqueur vive, éthérée, charmante, agite tous les esprits. Les hommes froids, graves, savants sont étonnés de se trouver aimables. Et Voltaire l'avait déjà dit auparavant, en 1736, dans ce très célèbre poème « Le Mondain », dont je vous lis un tout petit passage, d'un vin d'Aï, dont la mousse pressée, de la bouteille avec force élancée, comme un éclair fait voler son bouchon, il part, on rit, il frappe le plafond, de ce vin frais, l'écume pétillante, de nos Français et l'image brillante. Il n'est pas besoin de s'étendre longuement sur les conséquences très positives de ces effets physiologiques connus depuis bien longtemps, et qui sont déjà décrits dans le Banquet de Platon. Des hommes et des femmes joyeux sont plus heureux de vivre, plus intuitifs, plus sociables, mieux à même d'éprouver de nobles sentiments et de les partager avec autrui. Le plaisir est indispensable à la vie. Le prédicateur oratorien Jean-François Senault l'écrivait en 1652 « Ceux qui condamnent le plaisir sont obligés de condamner la nature et de l'accuser d'avoir commis des fautes en tous ses ouvrages. Comme le plaisir est utile au corps, il n'est pas moins utile à l'esprit. » Et donc j'en viens tout naturellement au point suivant, c'est-à-dire que le vin est une invitation à l'amour. En donnant confiance à celui qui le boit, avec sagesse, toujours avec sagesse, en exauçant son abnégation, sa sympathie, voire son empathie vis-à-vis d'autrui, le vin permet de mieux investir la totalité du potentiel de la condition humaine. La plupart des philosophies et des morales du monde ont toujours enseigné qu'il fallait s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre et vice-versa. Eh bien, le vin y contribue clairement. Permettez-moi un exemple, le château Aumart-Buzet, encore un Bordeaux, illustre parfaitement ce propos. C'est un Saint-Estèphe d'une appellation qui est réputée austère dans sa jeunesse, chez ses jeunes vins. Henri Dubosc, qui est le propriétaire de Omar Buzet, est totalement à l'opposé du style Saint-Estèphe. Il s'est donc efforcé d'élaborer des vins séduisants et sensuels, irrespectueux de la tradition locale, et il y est parvenu. Et il l'explique très bien, je le cite, c'est un entretien qu'il a eu avec Jean-Paul Kaufmann dans un très beau petit livre qui s'appelle « Voyage à Bordeaux », paru il y a une vingtaine d'années. « Mon tempérament », c'est donc Dubosc, Henri Dubosc qui parle, « mon tempérament se situe exactement à l'opposé du Saint-Estèphe. Je suis volubile, exubérant et plutôt caressant. Je fais donc le vin qui me ressemble, car ce que j'aime par-dessus tout, c'est moi. » C'est une proclamation qui pourrait sembler immodeste, ridicule, mais écoutez la suite. La suite du propos rétablit la réalité du vin. Et donc Dubosc continue. « Il m'a donc fallu échapper à cette typicité que l'on prête à Saint-Estèphe. Momentanément, j'ai dû dompter le terroir. Jeune, Omar Buzet est davantage Dubosc que Saint-Estèphe. Voilà pourquoi il choque les puristes. Au bout de 3 ou 4 ans, c'est une autre affaire. Mon vin m'échappe. Il n'a plus le flamboiement de Dubosc, mais il ne montre pas encore le génie de son terroir. Omar Buzet va connaître alors une période de réflexion. Les amoureux de ce vin ne reconnaissent plus la fringance de ses débuts. Je dirais que, lassé d'être brillant, Omar Buzet entreprend d'être profond. Le terroir va désormais faire oublier le vinificateur. Et donc, je me permets de conclure, on voit donc là encore, au travers de cet exemple, que le vin dépasse l'homme. Et c'est ce qui fait sa grandeur au regard de la condition humaine. On peut ajouter qu'il bonifie et embellit l'humanité. Regardez combien rayonnent les visages des convives rassemblés sur les deux tableaux qui nous appartiennent, je crois, commandés par Louis XV à Nicolas Lancret et à Jean-François de Troyes, le déjeuner de jambon et le déjeuner d'huîtres, aujourd'hui conservés à Chantilly dans la Rotonde. Tous les convives boivent du champagne, le seul vin qui laisse les femmes plus belles après qu'elles en ont bu, selon l'affirmation qu'on prête à Madame de Pompadour. La vigne et le vin ont inspiré une telle multitude de peintures, de sculptures, de tapisseries, de vitraux, d'objets d'orfèvrerie, de poèmes, de romans, d'essais, d'airs d'opéra, qu'on ne peut douter de leur lien avec la beauté, qui est l'une des expressions de la vérité et donc de la vie. Dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, le poète Alcée avait énoncé que la vérité est dans le vin, ce qui deviendra un proverbe latin courant et dont on retrouve l'équivalent à propos des vins de riz dans la sagesse chinoise. Après le vin, la parole vraie. Notre confrère, sa sainteté le pape Benoît XVI, ne se lasse pas de le répéter. Ses premières paroles après son élection au siège de Saint-Pierre le 19 avril 2005 avaient surpris beaucoup d'observateurs. Je vous rappelle ses paroles, « Chers frères et chères sœurs, après le grand pape Jean-Paul II, messieurs les cardinaux m'ont élu, moi, un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur. » Et il a récidivé le 29 juin dernier, lors d'une homélie prononcée au Vatican à l'occasion de l'imposition du pallium aux nouveaux archevêques métropolitains et en même temps à l'occasion de la 60e année de son sacerdoce. Et il a choisi à cette occasion de commenter la parole de Jésus « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Et à partir de cette belle parole, il a filé une très étonnante métaphore vitivinicole. Il est vrai que sa mère était cuisinière, même si en Bavière on produit peu de vin, sa mère était cuisinière et je pense qu'on buvait du bon vin lorsqu'il était jeune à la maison. Et voici quelques extraits de cette métaphore qui tient sur une page entière, donc j'en ai pris quelques extraits, mais c'était difficile de résumer davantage. La parole de Jésus se place dans le contexte du discours sur la vigne. Le Seigneur associe l'image de la vigne avec la tâche confiée aux disciples. Je vous ai institué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et un fruit qui demeure, en Saint Jean au chapitre 15. Et le pape poursuit, quel est le fruit qui demeure? Eh bien, le fruit de la vigne, le raisin, à partir duquel se prépare par la suite le vin. Je passe quelques passages. Pour que parvienne à maturité un vin de qualité, il faut le foulage, le temps nécessaire à la fermentation, le soin attentif qui sert au processus de la maturation. Le vin fin est caractérisé non seulement par la douceur, mais aussi par la richesse de ses nuances, l'arôme qui s'est développé au cours du processus de maturation et de fermentation. N'est-ce pas, poursuit-il déjà, une image de la vie humaine et selon un mode spécial de notre vie de prêtre? Nous avons besoin du soleil et de la pluie, de la sérénité et de la difficulté, des phases de purification et d'épreuve, comme aussi des temps de cheminement joyeux avec l'Évangile. Et il termine, le vin est l'image de l'amour, le vin qu'on attend du raisin de qualité est avant tout une image de la justice. Et ce serait assez long de commenter le rapport entre le bon vin et la justice, mais il y a un rapport, mais ce sera pour une autre fois. Je passe à un autre thème, qui est celui de l'exercice de la responsabilité. Et je voudrais revenir au risque réel que fait courir le vin lorsqu'il est bu à l'excès. Ces risques ne sont évidemment pas une raison de mettre en œuvre le principe de précaution, qui est une abomination de la France d'aujourd'hui, la culpabilisation et l'interdiction de la consommation. Mais bien au contraire, l'occasion, ces risques sont l'occasion d'inviter chacun à pratiquer la tempérance, hors de laquelle, quelle que soit son activité, l'homme s'avilit et prend le risque d'attenter à sa dignité, à celle d'autrui, voire à la vie d'autrui et à la sienne propre. Dans toute la chaîne longue et périlleuse qui va de la plantation de la vigne jusqu'à l'acte de boire le vin, toutes les interventions humaines, et Dieu sait s'il y en a, sont marquées au sceau de la vulnérabilité et de la liberté. La prise calculée de risque est le seul moyen pour le vigneron de réussir un bon vin, à plus forte raison un très grand vin. L'équilibre entre doux abandon et maîtrise des pulsions doit être trouvé dans la conduite de la vigne, mode de plantation, taille de la vigne, travail du sol, etc., dans la conduite des fermentations à la cuverie, dans celle de l'élevage en cave. Le même discernement est nécessaire pour l'amateur qui doit choisir le bon moment pour déboucher une bouteille précieuse et entourer de soins et d'amis, si possible, sa dégustation. De sa gestation à son ingestion, le vin invite à choisir le bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, ni trop, ni trop peu. Il est une image du bon gouvernement de soi-même et de la société. Donc il y a évidemment un aspect métaphorique de la politique dans le vin. Tous les textes anciens célèbrent les mérites du vin, mais aussi préviennent les hommes de ses dangers. Consommé sans retenue, il entraîne des effets dévastateurs sur les pensées et sur les actes des buveurs. L'islam, religion de la précaution s'il en est, et de très fort encadrement social, a préféré éviter le risque et a choisi l'interdiction pure et simple. Après quelques hésitations, les premières sourates du Coran, celles de la Mecque, sont plutôt favorables au vin, consommé avec modération. Les sourates de Médine sont une interdiction formelle. Or, elles annulent les premières, comme vous le savez, ce sont des sourates abrogeantes. Donc, a choisi l'interdiction pure et simple en ce bas monde, promettant au juste des fleuves de vin au paradis d'Allah, ce qui est toujours une consolation, mais difficile à admettre pour un certain nombre de musulmans qui, quand même, enfreignent l'interdit plus ou moins discrètement. C'est aussi le choix des gouvernements prohibitionnistes de certains pays protestants au XIXe et au XXe siècle. L'expérience démontre que la prohibition ne résout rien et qu'au contraire, elle encourage la transgression, l'ivresse rapide et finalement l'addiction alcoolique. C'est ce qui s'est produit aux États-Unis entre 1920 et 1930. C'est un débat qui doit avoir lieu en France, pays qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la viticulture de qualité, en particulier en inventant les AOC, et dont les savoir-faire ont essaimé dans le monde entier. Alors que le repas gastronomique des Français a été reconnu par l'UNESCO comme un élément du patrimoine immatériel de l'humanité, et je rappelle que ce repas associe évidemment des vins variés aux mets qu'il compose, il n'est pas admissible que le vin soit considéré par la loi comme une simple boisson alcoolisée et donc dangereuse. Il n'est pas raisonnable d'interdire de parler du vin à la radio et à la télévision. Les Français et l'humanité tout entière doivent être éduqués à la modération et à la responsabilité dans la consommation du bon vin, source d'optimisme et occasion du dialogue, merveilleuse introduction à la complexité et à la subtilité des réalités visibles et invisibles. Cristina Kirchner, la présidente de la République d'Argentine, a signé un décret il y a peu de temps, le 24 novembre 2010, proclamant que le vin est la boisson nationale de son pays et que la viniculture n'est pas seulement une activité économique, elle est aussi liée à l'identité et à la culture du peuple argentin. Pendant ce temps, la France est sévèrement encadrée depuis 1991 par l'archaïque et frileuse loi Evin, non prédestinée puisque « et » est privatif, comme vous le savez, dans la langue française, et la proposition de loi déposée le 4 avril 2011 par le sénateur de l'Aude Roland Courteau a de bonnes chances de s'enliser dans les marécages de la période électorale. Elle ne comporte qu'un court article destiné à orner le code rural et que je vous lis. Le vin produit de la vigne fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. Il n'y a pas eu le premier début de discussion autour de cette proposition de loi. Quand reverrons-nous un ministre de l'Éducation nationale, signé comme son prédécesseur, le ministre de l'Instruction publique, Marius Roustan, par ailleurs sénateur de l'Hérault, une lettre adressée à tous les recteurs, que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver dans les archives, afin qu'ils la diffusent à tous les instituteurs et à tous les professeurs de France. Elle est datée du 3 août 1931, au lendemain de la création des appellations d'origine contrôlée. Je cite cette circulaire de 4 pages, vous n'en aurez qu'un extrait. La propagande en faveur du vin est non seulement organisée, mais encouragée par le gouvernement. Les vins de France sont à la fois une des sources de richesse les plus admirables de notre terre généreuse, mais aussi une de nos gloires les plus incontestées. Il y aurait donc quelque chose de contradictoire, d'inadmissible, dans le fait que ceux qui ont la charge de l'éducation nationale ou bien s'opposeraient à cette action concertée en vue de l'intérêt général, ou bien resteraient indifférents aux appels qui leur seraient adressés pour y concourir. Je trouverais, pour ma part, fâcheux que l'on condamnât, comme livre de dictée et de lecture, le recueil de morceaux choisis fort intéressants, publié sous le titre « Le vin », un très joli petit livre. Il y développe une idée, c'est toujours le ministre qui écrit, il y développe une idée que de nombreux médecins français, y compris membres actuels de notre compagnie, soutiennent, semble-t-il. Rien ne vaut mieux pour combattre l'alcoolisme que d'encourager l'usage modéré du vin, car ceux qui font du vin à leur boisson quotidienne échappent à l'invincible besoin de le remplacer par l'alcool. Et le ministre conclut « Contre l'alcoolisme destructeur, vos efforts ne seront jamais assez énergiques. La défense du vin fait partie de cette lutte indispensable. » On l'admettra, Marius Roustan était un véritable homme d'État. En 1957, Roland Barthes dira à peu près la même chose, je le cite, c'est dans Les Mythologiques, « Le vin est senti par la nation française comme un bien qui lui est propre, au même titre que ses 360 espèces de fromage et sa culture, c'est une boisson totem, croire au vin est un acte collectif contraignant. » J'aborde rapidement une question qui m'est chère puisqu'elle est très géographique, c'est la question du terroir, qui, me semble-t-il, est le véritable avenir, le bel avenir, et du vin, et même de la mondialisation d'une manière plus large. Produire du bon vin exige de maîtriser aussi finement que possible l'environnement, c'est-à-dire ce qu'il est convenu d'appeler le terroir. On pense d'abord bien sûr au sol et au sous-sol, au climat et au temps météorologique du millésime, à la disponibilité hydrique, à la vie microbiologique du sol et de l'air ambiant, les levures, mais aussi bien sûr à cette plante fantasque qui a pour nom Vitis vinifera, et à son cortège de levures si différentes d'un terroir à l'autre. Il faut y ajouter l'accumulation des connaissances au fil des siècles, les innovations techniques récentes, la personnalité du vigneron et les attentes des acheteurs. Cela fait beaucoup et cela aboutit à une infinie diversité de vins, y compris au sein même des appellations définies par la réglementation. Les climats de Bourgogne en offrent une magnifique illustration. Ils sont actuellement candidats pour entrer au patrimoine de l'UNESCO. Plus de 80 propriétaires sur les 50 hectares du Clos de Vougeot, autant de vins différents dans chaque millésime. Récemment, en visite à Paris, le président de la République des Maldives, qui s'inquiète de l'évolution en cours des climats, a déclaré « On ne négocie pas avec la nature ». Et deux des ministres de notre gouvernement actuel ont trouvé cette phrase admirable la semaine dernière dans un article du Monde. Eh bien, si, on négocie avec la nature, justement, si. Et la viticulture en est une magnifique démonstration, puisque le vin est une négociation quotidienne, heure par heure, avec une nature qui est très difficile à dompter, mais qui, lorsqu'elle l'est, donne des résultats merveilleux. Et donc on touche ici à l'une des plus belles relations entre le vin et la condition humaine. C'est la biodiversité culturelle. Nous sommes tous des homo sapiens, mais même les jumeaux homozygotes, ils ont leur équivalent en viticulture, ce sont les plants de vignes clonés, développent avec l'âge des caractères physiques et psychologiques différenciés. La vie se ramifie à l'infini. Une viticulture respectueuse de la vie crée des vins toujours plus différents et nuancés. Certains s'en désolent et pensent que le marché mondial a besoin de produits simples, rassemblés en troupeaux, sous des marques facilement reconnaissables, d'où le succès apparent des vins de cépage et de marques ou des vins d'appellation d'origine qui parviennent à se ressembler tant ils sont exagérés dans leur couleur, leur puissance et leur goût. Je veux parler des vins dits « parkerisés », selon la doctrine d'un célèbre critique américain, Robert Parker, qui d'ailleurs est en train de changer son goût. Et d'autres productions, finalement, expriment la même tendance. Le vêtement, le tourisme sur catalogue, les services financiers. Et ça n'est pas, me semble-t-il, l'avenir souhaitable de l'économie et, de manière plus générale, de la vie humaine sur Terre. Vivre de manière responsable et profitable la mondialisation, c'est multiplier les échanges de biens et de services différenciés et ressemblant par leur culture à leurs producteurs. Le bon vin, c'est donc celui qui exprime le génie du lieu d'où il provient. Et il est facile de constater le succès actuel des vins relevant de cette famille. Certains sont commercialisés à des prix déraisonnables, par exemple certains Bordeaux, mais aussi certains Bourgogne ou certains Champagnes, qui sont des vins souvent d'ancienne réputation. Ou parfois, certains vins dits de garage, mais connus jusqu'à une date récente, et qui bénéficient d'une prime, largement exagérée et imméritée, à la rareté, à l'originalité du style, au caractère affirmé du vigneron. Le vin démontre que la loi des économies d'échelle a fait long feu, et que la segmentation intelligente de la production et de la commercialisation répond à un besoin de plus en plus nécessaire et clairement exprimé par beaucoup de producteurs dans tous les domaines de la production économique. C'est au fond le seul moyen de tirer un parti utile de la mondialisation qui angoisse tant nos contemporains sous toutes les latitudes. Rien n'est plus émouvant que d'ouvrir une bouteille d'un vieux millésime dont le caractère est unique car elle a vécu sa vie propre, un peu différente de sa voisine, d'apparence identique au départ. Le monde entier aspire à la diversité partagée. Et je termine en évoquant cette question majeure du vin au cœur du dialogue des civilisations. L'expansion mondiale de la culture occidentale, d'essence chrétienne, au cours des 5 derniers siècles, a permis la diffusion de la viticulture partout où cela est possible, mais aussi du goût du vin, à l'exception des pays musulmans. Encore faudrait-il nuancer, tant les vins du Maroc et de Tunisie ont récemment progressé en qualité et même en quantité. De nombreux peuples ont appris à connaître et à aimer le vin. Au cours de ces dernières décennies, ce sont les pays non producteurs de l'Europe et de l'Amérique du Nord, par exemple la Scandinavie, la Russie, le Canada. Le Québec s'est lancé dans une politique d'éducation, alors qu'il y a un monopole d'État sur les vins et alcool, une politique d'éducation de la population à la dégustation raisonnable du bon vin. C'est la SAQ qui s'en charge, la Société des alcools du Québec, avec un slogan, la modération à meilleur goût. Donc, pays non producteurs de l'Europe et de l'Amérique du Nord, le Japon, la Corée, Singapour et désormais la Chine, l'Inde et bien d'autres pays. Très peu de pays échappent à la mode du vin aujourd'hui. L'ouverture de bars à vin, d'écoles de sommellerie et de dégustation. L'explosion éditoriale dans tous ces pays va de pair avec l'émergence d'une proportion non négligeable de la population qui connaît les vins, les producteurs, les millésimes et demande le meilleur que ces moyens lui permettent de s'offrir. Je pense que les consommateurs français feraient bien de prendre modèle sur ce qui se passe dans beaucoup de pays. Il y a trop de consommateurs français, je le dis sans hésiter, qui s'estiment connaisseurs parce qu'ils sont français, mais qui feraient bien de faire un petit effort pour mieux connaître les différences entre les vins. Et ils y prouveraient du plaisir. Les domaines les plus réputés de France et d'Europe exportent la plus grande partie de leur production. Il ne faut pas le regretter, ni pour notre balance commerciale, ni pour le dialogue interculturel qu'ils permettent. Boire du vin ensemble aujourd'hui, boire du vin ensemble, c'est le moderne avatar du symposium grec, c'est entrer en communion et c'est la meilleure garantie d'une paix durable entre les peuples qui apprennent ainsi à mieux se connaître et s'apprécier au travers d'une de leurs productions les plus culturelles. Je suppose, Monsieur le Président, que la date de cette intervention que j'ai proposée, vous en avez choisi la date en raison de la proximité des fêtes de fin d'année. Il est vrai qu'en cette période, les Français boivent un peu plus de vin que d'habitude, sinon que de raison, tout simplement parce que le superflu, le vin est une boisson superflue, mais le superflu est chose très nécessaire, comme le dit Voltaire encore une fois dans Le Mondain. En tout cas, merci, mes chers confrères, de votre patience et d'avoir accepté l'idée que la science du vin n'est pas seulement physique, chimique et biologique, mais aussi morale et politique, et même davantage encore, puisque le vin, j'ai essayé de vous le montrer, est une véritable métaphore de la condition humaine.
Vous pouvez lire l'intégralité du texte de Jean-Robert Pitt sur le site de l'Académie, www.asmp.fr. Vous pouvez retrouver Jean-Robert Pitt sur Canal Académie dans de nombreuses émissions qui vous présentent également les livres dont il est l'auteur.